Jean-Bertrand Pontalis, frère du précédent. Je ne rêvais, dans ma 18e année, à dire vrai, il n'est pas certain que ce rêve adolescent m'ait jamais totalement quitté, que de tomber amoureux d'une jeune femme. Elle aussi, cela allait de soi, serait éprise, et alors le courant sensuel et le courant tendre, comme dira Freud, se rejoindraient, ne feraient qu'un. L'érotisme aurait un goût de bonheur, le désir renouvelé, délivrerait tout à la fois de la solitude, de la morosité qui me gagnait parfois à la tombée du jour et de la méchanceté humaine. Aurais-je anticipé le slogan de mai 68 « Faites l'amour, pas la guerre », à condition de ne pas y voir une injonction mais un espoir? Dans cette attente, dans ce rêve naïf d'une union parfaite, les aberrations recensées par Kraft et Bing me paraissaient des plus bizarres, pas monstrueuses ou scandaleuses. Le jugement moral n'était pas mon fort, ni même asocial, l'amour est toujours asocial. Mais dans les perversions, je ne trouvais pas trace d'amour. Oui, vraiment des plus bizarres. Quelle étrange idée s'était donc emparée de ce jeune homme pour qu'il ne soit attiré que par des vieilles femmes décrépites, dixit le professeur. Au fait, comment était la sienne? Et que penser de cette jeune femme qui ne trouvait son plaisir qu'en se faisant pénétrer par un chien? Avec pour guide le professeur, je ne visitais pas quelques cabinets de curiosité où le collectionneur recueille de précieux objets trouvés ici ou là, qui tous l'ont charmé et séduit. Les objets les plus ordinaires peuvent devenir exotiques. Tout dépend du regard qui se pose sur eux. Non, je parcourais les salles d'un musée qui n'avait rien d'imaginaire. Kraft et Bing illustrent ces descriptions d'observations détaillées. Et, comme dans certains musées où l'on passe de salle en salle, l'ennui vous gagne rapidement. Les musées sont pleins de croûtes, disait, je crois, Picasso. Et Bonnard, ce qu'il y a de mieux dans les musées, ce sont les fenêtres. Regardez dehors, ne pas rester enfermé. Les pervers seraient-ils des prisonniers? Des prisonniers à vie? Je pensais, et pense toujours qu'ils le sont, tant ils sont assujettis au scénario à la fois monotone et compliqué, qu'ils mettent inlassablement en œuvre pour susciter l'excitation sexuelle et parvenir à la jouissance. Peut-être jouissent-ils avant tout de leur scénario? Prisonniers, les pervers, et comme les prisonniers, luttant contre leur impuissance. Des barreaux obstruant la fenêtre qui donnerait accès à la liberté, ils en sont réduits à tuer le temps. Leur mémoire s'affaiblit. Reste tout au plus le souvenir de deux ou trois scènes, celle de leur condamnation par un tribunal, à leurs yeux du guignol. Celle où leur père ivre les a roués de coups, que sais-je. Leur imagination se tarit, ils n'ont plus qu'à puiser dans la maigre réserve de leurs fantasmes qu'ils fignolent comme un outil, qu'ils aiguisent comme un couteau de cuisine. Le maître de Ballantrae, James, était-il un pervers sexuel? Et Phil, le héros du pouvoir du chien, nous n'en savons rien, mais diabolique, d'une habileté sans pareille pour corrompre et faire souffrir, pour toucher là où ça fait mal, de cela nous ne doutons pas. L'attention portée aux perversions sexuelles par Kraft et Bing, Havelock Ellis, Freud et après lui tant de psychanalystes, nous fait méconnaître l'existence et, je crois, la préséance de la perversité au point qu'aujourd'hui, c'est un terme qu'on n'emploie plus guère. Perversité. Goût pour le mal. Attraction par le mal.
C'était « Frère du précédent » de Jean-Bertrand Pontalis, lu par Denis Podalydès de la Comédie-Française.